Dans ce journal, on s'intéresse à nouveau à l'organisation des preuves olympiques de surf. On fait aussi un tour au tribunal avec une affaire d'inceste avant de vous parler théâtre. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
On reparle de la Tour des juges.
Un débat qui n'en finit pas et qui inquiète chaque jour un peu plus les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors vous le savez, une nouvelle tour en alu a été commandée à l'époque d'Edouard Fritsch. Elle a même depuis été fabriquée et commencé à être payée sous cette mandature. Mais le projet à plus de 500 millions de francs n'aboutira pas. La tour ne sera pas montée, c'est ce que disent Moetei Brotherson et Naïma Temari, qui prennent de plus en plus clairement le parti des opposants à la aluminium et à ses forages dans le récif. Lundi, en commission de l'Assemblée, les élus Tavigny ont envoyé le même message et pourtant la recherche d'alternatives n'a pas beaucoup avancé, Charlie René.
Et non, car vu les délais, les contraintes techniques et les besoins des Jeux, toutes les solutions paraissent des plus bancales, Valdemar. Certains voulaient monter la tour en alu sur leur rivage, cette option ne semble même plus être discutée, pas plus d'ailleurs qu'une modification express de la nouvelle tour. Reste l'homologation de la tour en bois, celle qui est utilisée tous les ans par la WSL sans aucune certification. Paris 2024 a accepté l'idée de réduire le nombre de techniciens et de moyens de captation à bord pour s'adapter, mais impossible pour l'instant de trouver un bureau d'expertise qui veuille endosser la responsabilité de cet édifice qui est décrit dans le milieu comme une tour artisanale.
Et le temps presse, hein. Les Jeux Olympiques c'est dans moins de 8 mois et la tour des juges doit même être opérationnelle dans 6 mois à peine pour la Tahiti Pro 2024 qui sera un peu la dernière répétition avant les Jeux. Si l'homologation n'était pas possible, Moetei Brotherson a évoqué sur TNDV une autre solution hier, Charlie.
Oui, l'option de déplacer les Jeux, tout simplement. Alors, hors de question de les laisser repartir en métropole, tant pis pour nos amis basques, mais il s'agirait plutôt d'organiser l'épreuve sur le spot de la Taharu, une vague de beach break pas franchement remarquable, mais assez fiable, avec une tour déjà installée dans le sable noir de Papara. L'idée de ce spot de secours avait d'ailleurs déjà été mise sur la table dès la constitution du dossier de candidature. À l'époque, le comité olympique l'avait entièrement écarté, c'est bien Teahupo que les Jeux voulaient. Le nouveau président du pays, lui, juge cette porte de sortie raisonnable, à voir si Paris sera convaincu, Valdemar.
Voilà, et à noter que pendant que le gouvernement et le comité discutent, les opposants à la tour en aluminium, eux, ne baissent pas les armes. Ils devaient, aux dernières nouvelles, manifester vendredi dans les rues de Papeete.
Et on suit aussi cette table ronde à l'UPF.
Elle a été lancée hier matin à l'initiative du gouvernement et elle a pour but de dresser un premier état des lieux sur la question des droits LGBT+ dans la région. Des questions qui concernent beaucoup de monde dans le Pacifique et qui présentent beaucoup de défis. Autour de la table à l'université, des représentants du pays, bien sûr, d'associations, des chercheurs, mais aussi des ambassadeurs néo-zélandais, australiens et même français. Parmi les thèmes au programme, l'influence des médias sur les revendications LGBT, les questions de santé, que l'on parle de VIH ou d'opérations de changement de sexe, le défi de l'éducation bien sûr, mais aussi la place de la religion dans ce dossier. Un débat franc donc à l'UPF et puis sur notre plateau aussi, puisque nous recevrons demain à 11h30 des participants à cette table ronde.
Un secrétaire d'État se rend en visite aux Fénois.
Il s'agit d'Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer. Il est actuellement aux îles Cook pour représenter la France au Forum des îles du Pacifique auquel participe notamment Moetei Brotherson. L'événement a été lancé officiellement lundi soir avec un programme très chargé. Il s'agit pour les chefs d'État et de gouvernement de la région de se mettre d'accord sur une ligne commune dans le débat mondial sur le climat et sur la fin des énergies fossiles. Il s'agit aussi de trouver des sujets de coopération concrets en matière de développement économique. Il s'agit surtout d'avoir une voix commune dans le bras de fer géopolitique qui oppose la Chine aux États-Unis dans la région. Mission difficile donc. Et après ce forum, Hervé Berville se rendra donc sur le territoire à l'invitation du président Brotherson. Au programme de cette visite, selon le Haussaria, des rencontres avec les acteurs du secteur maritime et de la préservation de la biodiversité marine.
Autoroa est dans l'œil de la Chambre territoriale des comptes.
Oui, ce contrôle de la CTC porte sur la période 2016-2022, soit le mandat de Sylviane Terroa-Tea et le début du mandat de Moetei Brotherson. Malgré quelques améliorations, on y retrouve tous les travers des communes polynésiennes. Pas de réel plan d'investissement, pas de politique de ressources humaines, un assainissement défaillant et un service de l'eau déficitaire. La CTC formule donc 4 recommandations. La mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement, la mise en œuvre dès 2024 d'une évaluation annuelle de l'ensemble des agents de la commune, mais aussi une nouvelle grille tarifaire du service eau et la création d'un service public de l'assainissement.
Et au volet justice, 3 ans de prison ferme pour le grand-père incestueux.
Il comparaissait hier pour agréer agression sexuelle incestueuse sur sa petite fille. Alors si dans un premier temps la victime n'avait pas osé révéler les faits par peur de voir son grand-père aller en prison, c'est suite à un malaise qu'elle a fait alors qu'elle était au lycée qu'elle s'est confiée. Durant le procès, l'homme a joué la carte de l'amnésie. À aucun moment il n'a avoué ni même demandé pardon. J'ai de la haine envers lui, il n'assume pas ce qu'il a fait, a déclaré la jeune femme à la barre qui n'a plus peur de voir son grand-père aller en prison. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l'homme à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Il sera aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et devra s'acquitter d'une amende de 1,2 million de dommages et intérêts.
Et en Nouvelle-Calédonie, la première barrière anti-requin va être installée.
Oui, les travaux d'installation de cette infrastructure inédite sur le Caillou viennent tout juste de commencer sur la plage très fréquentée de la baie des Citrons. La mairie espère que ce filet sera opérationnel d'ici mi-novembre à Nouméa, alors que le territoire a connu une série d'attaques en début d'année. Longue de 760 mètres, large de 200 mètres, cette barrière offrira un plan d'eau d'une surface d'un peu plus de 10 hectares. Elle doit permettre le passage des poissons tout en excluant les espèces de grande taille. Et son installation divise les Calédoniens, notamment les associations environnementales. Ce qui n'a pas empêché la mairie de Nouméa de voter hier pour l'installation de 2 autres barrières sur d'autres plages de la capitale. Elles devraient être installées l'an prochain.
Retour au Fénois où une nouvelle pièce sera jouée à partir de vendredi.
Oui, son nom c'est Le Petit Coiffeur, une œuvre de Jean-Philippe Daguerre qui fait suite à Adieu Monsieur Hoffmann qui avait été joué en 2019 au Fénois. Avec cette pièce, il poursuit l'immersion du public dans les antres de la Seconde Guerre mondiale. Inspiré par la Tondue de Chartres, cette célèbre photo de Robert Capa, emblème de l'épuration à la libération, ce spectacle fait découvrir aux spectateurs le quotidien d'une famille de coiffeurs à Chartres. On écoute les précisions d'Arnaud Dupont, l'un des comédiens. Il est au micro de Vaïtiaré Pérez.
Les situations sont horribles, on est dans une période de France qui est horrible, mais lui, à travers quand l'amour est présent entre les gens, tous les problèmes sont quand même capables de se résoudre. Mais c'est comme aussi une pièce qui parle de justice, quoi, de ces moments-là où quand les hommes se font justice entre eux sans passer par une vraie instance de justice, et ben ça peut vite devenir n'importe quoi parce que chacun y va avec son émotion, avec ce qu'il a vécu, avec ses traumatismes, et ça peut très vite être très dur et très cruel. Là, on est surtout dans la vengeance, dans la délation, etc. Et ça montre un peu ça, quoi, les dangers de quand les hommes se rendent de justice eux-mêmes comme ça, un peu n'importe comment.
Et pour se rendre compte de ces dangers, on découvre dans des tableaux de la vie courante cette époque sombre. 5 personnages sont présents, dont Marie, la mère de famille, une grande résistante qui a un temps d'avance sur les hommes de l'époque. Elle est accompagnée par ses 2 fils, Pierre, le fameux coiffeur qui est forcé à faire des choses dès qu'il ne souhaite pas faire, mais aussi par son frère Jeannot, un personnage psychologiquement instable et recevant les choses avec moins d'émotion que les autres. On rencontre aussi Léon, Lise, des clientes avec qui Pierre, le coiffeur, va connaître le coup de foudre. Un spectacle donc à voir du 10 au 19 novembre, les vendredis et samedis à 19h30 et les dimanches à 17h. C'est au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Billets en vente sur ticketspacifique.pf.
Mais pour terminer, on parle des pompiers de Punaoya qui se dévoilent dans un calendrier 2024 plus sexy.
Oui, pour la 2e année consécutive, l'Amicale des sapeurs-pompiers de la commune a décidé de mettre en vente un calendrier. Et à moins de 2 mois de la nouvelle année, ils ont dévoilé cette nouvelle maquette pour 2024. Fini le calendrier avec seulement des clichés des pompiers en tenue. Et bonjour les prises de vue un peu plus osé, écoutez.
On a voulu innover et demander aux sapeurs-pompiers qui le souhaitaient de poser un peu torse nu. Mais après, on a aussi autorisé les personnes qui voulaient poser en t-shirt. Hein. On n'a pas fait de différence. Donc, il y a un peu un mix des deux, des gens torse nu et des gens en tenue de pompier. Parce qu'après, on a eu des retours sur la vente de l'année dernière où les photos demandaient d'être un peu plus sexy, en fait. Du coup, on a pris les modèles des Canadiens et des Américains où ils font ça chaque année. Donc, on s'est dit, allez, on va essayer cette année, on va essayer d'innover. Donc, on espère que tous nos calendriers vont partir cette année.
Jonathan Date, le président de l'Amicale des pompiers au micro de Vaïtiaré Pérez. 3000 exemplaires ont été imprimés cette année. Les soldats du feu espèrent, grâce à cette nouvelle stratégie, faire partir tout leur calendrier. Alors pas de prix fixe pour l'acquérir, mais selon les pompiers, les gens versent généralement au moins 500 francs. A noter qu'une partie de ces bénéfices sera reversée à l'association Entre Deux Mondes qui œuvre en faveur des autistes en Polynésie. L'autre partie des fonds servira entre autres à offrir le premier Noël des enfants de pompiers de la commune. Les calendriers sont donc disponibles depuis hier jusqu'à vendredi de 8h à 16h dans la galerie du centre commercial Carrefour Punaoya et samedi et dimanche prochain au magasin Auchan Tamanou, toujours à Punaoya. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans moins d'une demi-heure, 7h30, pour votre revue de presse locale.
Merci beaucoup, Valdemar.